Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
C'est parti pour Mbappé, la prise d'élan, la frappe. But ! Le but de Kylian Mbappé. Le Paraguay qui cède donc 1-0 pour l'équipe de France face au Paraguay.
Gilbert Brisbois.
Bonsoir à tous, la France est en quart de finale de la Coupe du Monde. Bienvenue dans l'After, c'est la 24e nuit de l'After. Depuis le début de la compétition, l'After est en direct sur RMC, mais aussi en direct sur la chaîne YouTube de l'After Foot, évidemment. L'After première radio de France le soir, Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir ou bonne nuit les amis, parce qu'à cette heure-là, je crois que c'est la première fois qu'on démarre un after, hein, Gilbert.
Effectivement, nous sommes de retour dans notre studio parisien à 1h08 du matin et on est là jusqu'à 3h avec également Maxime Chano qui lui est toujours aux États-Unis. Salut Maxime.
Toujours à New York, salut à tous.
Jean-Louis Tourlu est au stade à Philadelphie. Salut Jean-Louis.
Salut les gars.
Évidemment, l'événement, c'est la qualification de la France face au Paraguay 1-0. On va analyser tout ça ensemble. Évaluation complète, réaction à venir dans quelques instants. On dira également un mot du Maroc qui donc a éliminé le Canada 3-0 cet après-midi. Enfin, cet après-midi, hier soir. Donc le quart de finale de la France opposera les Bleus au Maroc. Ce sera le 9 juillet, donc jeudi prochain à 22h. Avant les 3 points, on va faire un tour au bord de la pelouse. On voit Ryan Cherki avec le bicorne de Napoléon. Valentin Jeannin est au bord du terrain.
Je sais pas d'où il sort ce chapeau, mais voilà, Ryan Cherki, on sait que c'est un des rigolos du groupe, donc il est rentré au vestiaire avec ce fameux chapeau. Tu as raison, là, les Français viennent de rentrer, les Paraguayens sont là, les mains sur les hanches, dans le rond central, ils vont saluer leur public. Mais ce qu'on peut retenir, messieurs, c'est que Kylian Mbappé en tête, il y avait beaucoup de soulagement, beaucoup de soulagement, beaucoup de satisfaction d'avoir passé ce piège, mais ils ont célébré ça sur l'air de Freed from Desire comme s'ils avaient gagné un peu plus qu'un huitième de finale contre le Paraguay, vu le bourbier qu'a été ce match. Donc beaucoup de soulagement et beaucoup de satisfaction, je pense, d'avoir battu cette équipe qui a tout fait pour faire déjouer les Bleus, qui a mis des coups. Donc on a vu des joueurs danser et vraiment se lâcher après ce match. Ils sont rentrés, on va avoir les réactions et la France est en quart de finale.
À tout à l'heure, on vous attend tous au 32-16, bien sûr, le standard RMC est ouvert jusqu'à 3h du matin, Adrien vous attend, et puis le numéro WhatsApp de l'After est également disponible, 06 12 424 424. Tout de suite, les 3 points, c'est parti. Ah, il n'y a pas de jingle 3 points. C'est les Paraguayens qui l'ont piqué.
C'est trop tard. C'est
les Paraguayens, ils l'ont, voilà.
Ils ont
taclé le jingle 3 points. On dégaine ces 3 points, du coup.
Bah écoute, le premier c'est la qualification comme attendu. Le point 2, est-ce que c'était le match attendu? Je m'attendais à ce que les Français fassent la décision plus vite. Donc effectivement, le match a été un véritable bourbier, l'expression se prête bien. Et le point 3, l'entrée de Doué, parce qu'elle a été importante dans ce genre de match-là. Il faut toujours provoquer pour provoquer la faute. C'est venu exactement, la porte s'est ouverte de cette façon.
Max, tes 3 points à toi.
Eh ben écoute, un peu similaire à ceux de Daniel, c'est-à-dire que vos premiers points, moi ça concerne plutôt le scénario général du match. Alors on s'attendait évidemment à un match compliqué avec des Paraguayens très défensifs, et c'est exactement ce qu'on a vu. On a vu un bloc très compact avec des Paraguayens justement qui ont joué à 5 défenseurs. On savait aussi qu'ils allaient chercher à casser le rythme, mais surtout à rendre le match haché, et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est aussi ça une Coupe du Monde, voilà, il faut savoir gagner contre ce type d'adversaire, et c'est précisément ce qu'ont arrivé de faire les Français. Je pense vraiment que c'est de bon augure vraiment pour la suite de cette compétition. Mon deuxième point, c'est l'arbitrage. Alors j'aurais préféré m'attarder sur le jeu, mais je pense que l'arbitre est aussi responsable un petit peu de la situation de ce match, peut-être un peu d'inexpérience, je sais pas, on en parlera un peu plus tard, mais surtout le fait d'avoir laissé jouer un peu trop dès le début du match.
De l'arbitrage ce soir, mais bon, tu vas me
parce que je pense que s'il avait sanctionné plus tôt, Daniel, je pense qu'on aurait peut-être pas eu ce genre de scénario. On a dû attendre 70 minutes avant que les Français marquent, aussi parce que l'arbitre a, je pense, laissé les Paraguayens s'installer dans la tête des Français. Et puis mon troisième point, Daniel a dit Désiré Doué, moi j'ai envie de mettre en avant le capitaine Kylian Mbappé, qui est en mission depuis le début de cette compétition, il nous l'a encore montré. Alors on pense tous que marquer un pénalty c'est simple, marquer un pénalty sous la pression c'est jamais facile, et j'ai envie de le mettre en avant parce qu'honnêtement il fait une Coupe du Monde exceptionnelle, notre Kylian Mbappé. Oui.
Alors Jean-Louis, est-ce que tu as été inquiet à un moment pour la qualif? Parce que en fait, le Paraguay, il montrait rien. Est-ce que Jean-Louis, t'as été inquiet à un moment dans le
XG 0.
Non.
XG 0.
0.
Oui, moi, alors, en fait, moi, évidemment. J'ai pas été inquiet une
moi
fois.
Non plus.
Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais on en a vu des matchs de foot quand même où t'as un ballon dans la surface, un corner, un
bien
truc
sûr.
Comme ça, et tu te dis, ce serait pas. Quand même terrible vu l'écart. Oui, mais ça peut toujours arriver. L'écart qu'il y a de niveau entre les deux équipes, ce serait terrible de pas réussir à faire la différence. Donc, effectivement, jamais été trop inquiet. Mais il suffit d'un ballon, il suffit d'un truc. Même à 1-0, j'étais pas totalement serein. Même si c'est vrai qu'ils ont créé aucun danger, ça c'est sûr.
Ouais.
Bon, signalons quand même que la France se qualifie une nouvelle fois pour un quart de finale de Coupe du Monde, donc pour la quatrième fois d'affilée, hein, je me trompe pas. C'est quand même assez
oui,
extraordinaire.
Parce que 2014 compte finalement. Oui, mais, ils avaient perdu en quart contre l'Allemagne.
C'est quand même assez extraordinaire de se dire que la France donc aligne un quatrième quart de finale d'affilée dans une Coupe du Monde et peut-être mieux à suivre. On va bien sûr.
La France en termes de régularité a supplanté les historiques Brésil, Allemagne, Italie d'une autre époque. Maintenant, c'est la France qui est toujours là. C'est la France qui a un réservoir de joueurs extraordinaire, mais ça on le sait, c'est l'exportateur numéro un égalité avec le Brésil. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs. C'est une véritable économie le foot en France. C'est le vivier de nos footballeurs. C'est quasi normal.
Surtout,
là, on n'a pas imaginé une seconde que les Français soient pour un quart de finale finalement. Ils sont à leur place.
Il y a surtout un sacré équilibre en fait dans cette équipe. C'est vrai que certaines nations ont tendance à avoir un vivier offensif, d'autres un vivier défensif. Quand tu regardes un petit peu le 11 titulaire, il y a tout. Exactement. C'est exceptionnel devant. C'est solide derrière. Au milieu, bah, t'avais Tchouaméni qui était absent. T'arrives à faire rentrer un Manu Koné qui a fait encore un superbe match. On est top aussi niveau gardien de but. Donc je suis d'accord par rapport
c'est
au Olivier Daniel.
C'est vrai
que cette équipe de France.
Au dessert, il y a de tout. C'est voilà.
Voilà. Et puis pour un prix raisonnable.
De l'entrée
pour
au
un prix raisonnable en plus, Daniel.
On écoute une première réaction, celle de Kylian Mbappé il y a quelques instants à la sortie de la pelouse.
Non, je pense qu'on savait quel type de match on allait avoir, mais je pense qu'aujourd'hui c'est très bien le match qu'on a eu, comment on l'a joué. On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer en football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. Désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu'on allait venir jouer en smoking, qu'on allait juste venir faire des belles actions des 1-2. Nous, on sait faire le sale football aussi. Et on l'a fait aujourd'hui, on a gagné et même dans ça, on a été meilleur qu'eux.
Il y a eu plusieurs situations où ils vous ont encerclé avant le pénalty ou Caceres à la fin du match.
C'est leur football, c'est leur manière de jouer. Tout le monde joue avec ses armes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de jouer au foot. Il n'y a qu'une seule manière, c'est gagner. Ils ont essayé de nous avoir comme ça, mais on les a eu nous aussi comme ça. Maintenant, on passe à une étape supplémentaire. Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc.
Vous allez retrouver un très bon copain contre le Maroc, Achraf Hakimi. Comment vous allez gérer ça?
Je pense qu'il m'a déjà écrit, donc je ne sais pas. Mais on va se concentrer, on va jouer. On sait que c'est une très bonne équipe et on est très content de jouer contre eux. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour continuer notre chemin.
Bravo Kylian.
Excusez-moi, mais je suis encore. Voilà.
Parfait,
c'est dire,
il est
bravo, au-dessus. Quelle lucidité.
Il est au-dessus dans ouais. Ce qu'il dit. Il ose dire les trucs. Il dit en gros, c'était un match pourri, un match de merde, mais nous aussi, on sait faire ça. On sait pas. Enfin, faut, je sais pas, il parle clair, il est lucide, il tourne pas en rond. Ouais, on a un capitaine de l'équipe de France, il faut en être fier. Il est au-dessus de la mêlée, ce gars-là. C'est tout.
Et sans être d'ailleurs méprisant pour le style de jeu en face.
Non,
hein.
Bah non,
ça aussi, c'est
tout,
très fort en com. Parce qu'il dit voilà, chacun joue avec ses armes, avec sa façon de faire. Et il y a qu'une vérité à la fin, c'est le résultat.
C'est leur façon de faire, c'est culturel. Moi, par exemple, quand ils ont battu l'Allemagne, j'ai dit c'est un braquage. Oui, c'est leur façon de faire. C'est pas que je méprise. J'aime pas ça. Mais après, paradoxalement, tu vois, quand ils vont essayer de faire le trou, là, de gratter le point de pénalty, ça me fait marrer. S'ils veulent faire comme ça, qu'ils le fassent. Moi, je veux pas dans ce football.
Ça existe. Chez les amateurs,
oui, mais
c'est
moi je veux pas que ce soit uniforme. Je veux qu'il y ait les différentes façons. Après, dans un match, je veux pas. Si c'est cette équipe-là qui gagne, ça m'emmerde un peu parce que c'est pas mon football. Mais bon, après tout,
bon,
s'ils veulent
Daniel.
Le faire comme ça, qu'ils le fassent.
Il y a quand même un problème. Parce que là, tout à l'heure, Max parlait de l'arbitre, monsieur Tantachev.
Moi, l'arbitre, je vois pas.
Non,
depuis le début de la compétition,
non, mais là, il y a quand même un problème. C'est pas possible que le Paraguay finisse ce match avec zéro carton jaune.
Mais c'est ça.
Ils finissent le match avec zéro carton jaune. Ouais, en fait, c'est là.
Normal.
Depuis
on
le début
on a vu des actes d'anti-jeu.
Que les arbitres
on a
sont
vu
très
des actes d'anti-jeu. Là, quand le ballon était de l'autre côté, on a vu des actes d'anti-jeu, on a vu Galarza taper Mbappé,
des
la
coups,
même chose sur
des
Koundé.
Coups caractérisés.
Bien sûr, des vrais coups.
Quand Kylian Mbappé dit que eux aussi savent jouer de la même manière, non, eux ils ne jouent absolument pas de la même manière que les Paraguayens. Par contre, là où est-ce qu'il faut mettre à l'honneur ces Français, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau. T'as personne qui a eu un geste d'humeur, t'as personne qui a eu une réaction.
On l'a connu. Bien sûr, ils ont répliqué.
De la part des Français,
je te parle.
De la part des Français. Non, non, mais il y a différents, gestes d'humeur. On l'a vu dans le passif, on l'a vu
dans... jamais, jamais énervé de sa vie.
Non, mais on s'est compris, Daniel, des gestes d'humeur qui ont... Qui ont fait du mal à cette équipe de France, Max. Ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai trouvé que les Français sont restés, notamment Kylian Mbappé. T'as vu à chaque fois qu'il y avait une faute, ils souriaient. Ça a été la même chose avec Koundé. Attention, j'ai pas dit qu'ils ont été petits joueurs. J'ai juste envie de dire qu'ils ont été très intelligents dans ce genre de comportement.
Non, mais Max, toi, tu connais ça par cœur. T'étais un défenseur central. Il y a, par exemple, Koundé quand il prend son carton. Prend son carton. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste découper Caceres en deux, qui lui-même met des coups depuis une demi-heure à tout le monde.
Bien sûr.
Donc, parce que c'est naturel.
Il y va parce qu'il dit toi maintenant ça suffit. Je t'en mets une.
Exactement. Et voilà, bon, voilà. C'est normal.
Ce que Max disait, je pense, c'est que attention, il n'y a pas eu de genre Laurent Blanc-Bilitz, tu vois, de vrais dérapages qui fait carton rouge.
Exactement, Jean-Louis.
Voilà.
Exactement. Des gestes d'humeur qui auraient vraiment impacté négativement l'équipe de France. Ouais, mais ça arrive, c'est naturel.
Oui,
Daniel.
D'accord, mais justement, si tu ne sais pas te contrôler, ce qui est fort dans ce qu'ont fait les Français, c'est que le piège tendu, l'espèce de bataille de rue qu'ils ont essayé d'installer, les Paraguayens, parce que leur football étant limité, ils ont cette méthode-là. Que tu répondes sans aller jusqu'au risque de prendre le rouge, eh ben, moi, je trouve que ça veut dire que t'es grand.
Avec
ça veut dire
un Kylian Mbappé qui souriait à chaque fois qu'on essayait de le mettre par terre. Vous savez, moi, j'ai joué longtemps en MLS, hein, je vous le répète assez souvent. C'est mon seul fait d'arme dans ma carrière, pardon. Mais pour avoir joué contre Almiron plusieurs fois, parce qu'il jouait, c'était un joueur d'Atlanta, je peux vous dire que jouer contre lui, Miguel Almiron, c'est une horreur. Il passe son temps à t'insulter. Et pas que toi, hein. Ta mère, ton père, tes sœurs. Donc c'est pas facile de jouer contre ce genre de joueurs. Et je trouve que les joueurs de l'équipe de France, alors ils ont assez d'expérience, mais on l'a vu, Jean-Louis l'a dit à l'époque avec un Laurent Blanc qui avait réagi, ça lui avait donné un carton rouge. Moi j'ai trouvé les joueurs de l'équipe de France avec énormément de maturité. Et aujourd'hui je pense que c'est ce qu'il faut un peu ressortir de ce match-là. C'est que t'as quand même une équipe de patrons, les mecs qui savent exactement ce qu'il faut.
Ça,
et surtout ils,
ça.
Savent
moi,
s'adapter, ils savent s'adapter aux équipes. Et, exactement.
Top Didier Deschamps, on écoute sa première réaction après le match.
À l'instant que vous transpirez, mais on transpire tous parce que la fin de match a été intense. Il a fallu gérer notamment le physique, l'aspect psychologique aussi. Et vous avez réussi à tenir en échec cette équipe paraguayenne. C'était quoi les armes?
Oui, ça n'a pas été simple. C'est sûr que si on avait eu sur les deux occasions à la fin l'opportunité de marquer, ça aurait été plus tranquille. Mais elle joue avec tous les ressorts possibles. Alors c'est peut-être pas... le football qui va faire venir toujours les gens en stade, mais voilà, il y a l'agressivité, ça rajoute. On n'est pas sorti de notre match, mais c'est difficile parce qu'il y a la densité, ça veut bien défendre. Évidemment que la température va à l'encontre de l'intensité. Et eux, sans intensité, ils ont bien défendu. Mais c'est une belle étape de passer, c'est toujours... compliqué par rapport à ces équipes sud-américaines et je suis très heureux que le groupe ait fait ça ce soir.
Je vous ai vu hausser le ton pendant la pause fraîcheur, notamment avec Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. J'imagine que vous leur avez demandé de se calmer parce que les Paraguayens, ils ont réussi à nous l'énerver, Michael Olise. Il faut le faire pour énerver Michael Olise.
Oui, mais ils savent faire. Après, et c'est nous qui nous faisons sanctionner puisqu'on a pris deux cartons jaunes. Eux, ils ont fait des fautes qui ne sont pas sanctionnées. Mais oui, par rapport à Kylian surtout, parce que je me rappelle en 2018, contre l'Uruguay, j'avais dû le sortir parce qu'ils allaient le découper. Moi, j'ai demandé aux deux plus costauds des joueurs sur le banc qu'ils aillent tout de suite le protéger à la fin, parce qu'on ne sait jamais, le match, il est jamais fini après, donc que je ne perde pas de joueurs. Quoi.
J'ai vu qu'ils étaient prêts, hein. Tout le banc était prêt à y aller, vous n'avez que des soldats.
Ouais, j'ai un groupe uni avec un excellent état d'esprit. On a été dans la difficulté aujourd'hui, comme beaucoup d'équipes aussi. Mais voilà, on a fait ce qu'il fallait pour... On est en quart de finale. Maintenant, on a 5 jours. On va pouvoir récupérer. Et puis, oui, on est en quart de finale. Donc, il faut apprécier toujours.
Il faut apprécier et bien préparer le Maroc. Merci Didier. Bonne continuation, merci.
Donc, il y a des joueurs qui sont aussi gardes du corps.
Ça, c'est... Mais comme tout, mais comme Messi en a, comme dans toutes les équipes, il y a toujours ce genre de choses. Moi, je trouve ça très bien que les Français aient su résister à ça.
Toi, tu joues pas, t'es garde du corps de Mbappé. Donc, dès que le match se termine, pam, s'il te plaît, tu vas me le protéger.
C'est le travail, c'est le métier de Rodrigo De Paul en sélection argentine depuis des années.
Qui est allé? Moi, j'aimerais bien revoir les images, Jean-Louis, de savoir quels sont les deux dont parlait Deschamps.
Dans le France Uruguay.
À qui il a dit, vous allez me protéger Mbappé, s'il vous plaît, merci.
Il faut vérifier, mais je pense qu'Upamecano et Saliba devaient pas être loin de l'histoire.
À mon avis. Non, c'était deux sur le banc.
Ah, des mecs du banc.
Ouais, il a dit c'était deux gars. J'ai demandé à vos gars sur, au plus costaud sur le banc d'aller protéger Mbappé.
Ah, je croyais que c'était pendant la pause fraîcheur qu'il
non,
a dit
non,
ça.
Bon, c'est non,
mais pour il faisait référence Mateta, au match de 2018.
Non, là, il a dit. Là, il faisait référence au match de 2018. Il a dit j'ai sorti Mbappé parce qu'il allait se faire découvrir les Uruguayens. Mmh. Et là, il a dit là, à la fin du match, j'ai demandé aux deux plus, costauds sur le banc d'aller protéger Mbappé à la fin.
Ah oui,
c'était
oui,
sûrement
oui,
pas un cliouche, hein.
Peut-être pas.
Peut-être Konaté. Moi, j'aurais envoyé Konaté et Mateta. Ou Marcus Thuram.
Ouais, peut-être. Bon, bref. Bon, c'est anecdotique. Dans un instant, on est de retour. On attend Samuel Umtiti qui va nous rejoindre. On va faire l'évaluation. On aura Stéphane au 32-16, évidemment. On va aussi parler du Maroc qui s'est qualifié tout à l'heure. France-Maroc, jeudi soir. Évidemment, désormais, on va se projeter vers, vers ce quart de finale de l'équipe de France. Donc, les Bleus pour la quatrième fois d'affilée en quart de finale de la Coupe du Monde. Et évidemment, c'est dans l'after. Parce que finalement ça fait quoi depuis 2014, donc ça fait 12 ans, en 12 ans 4 quarts de finale. Ah, on reste. Pourquoi? Parce que Ryan Cherki est en train d'arriver au micro de Fabrice Hawkins, me semble-t-il, me dit Jimmy. Donc c'est imminent. Voilà. Donc, ah, je crois qu'il est là.
Effectivement, on est avec Ryan Cherki. Ouais, Ryan, c'était un match épique. Vous avez beaucoup bataillé. Raconte-nous un peu comment tu as vu le match depuis le banc et surtout ce que ça t'a fait de rentrer, d'aller batailler avec les copains.
On savait que ça allait être une rencontre très engagée. Mais ça nous tenait à cœur de jouer une rencontre comme ça pendant la Coupe du Monde pour rappeler à tout le monde que l'équipe de France, on sait faire le beau jeu, mais on sait aussi faire la bagarre. Et aujourd'hui, on a été plus intelligents qu'eux. Donc on est vraiment content du match qu'on a produit.
Qu'est-ce qui était plus dur finalement? C'est la chaleur? C'était le combat sur le terrain?
Les deux. Je pense que la chaleur, c'est éprouvant. Pour nous, comme pour les supporters, c'est pour ça qu'on a été communiés avec eux à la fin. Mais de toute façon, toutes les équipes qui mettront de l'engagement, on en mettra plus.
Vous dites que vous étiez préparé, Ryan, mais vous attendiez vraiment à une telle bataille, à autant de, on va le dire, hein, de trucage de la part des Paraguayens, de petits coups, vous attendiez vraiment à ça?
Oui, depuis, ça doit faire 40, allez, j'irais même 72 heures qu'on a eu une petite réunion avec le coach où il nous a rappelé que leur qualité première, c'était celle-ci. Donc on leur a montré que nous aussi, on savait faire la même chose qu'eux.
Vous avez vu exulter à la fin du match, la libération, la fête entre vous?
Je ne pense pas que ce soit une libération parce qu'aujourd'hui on est conscient de nos forces. On avait juste à cœur de montrer à tout le monde, rappeler à tout le monde que faire la guerre, on sait faire et on est prêt à ça.
Ça vous va bien le chapeau de Napoléon?
C'est mon surnom dans le groupe, donc ça me va très bien.
Rien à jouer contre le Maroc?
Ah, bien sûr, ça va être une très belle rencontre.
Merci Ryan.
Merci beaucoup Ryan.
Voilà Ryan Cherki.
Vous avez noté la répétition deux fois après Mbappé, Cherki qui dit on était prêt à la baston, on voulait montrer toute la palette et l'étendue de ce que peuvent faire les Bleus. Ça veut dire qu'ils l'ont...
Il dit même on a montré qu'on savait aller à la guerre.
Ils l'ont travaillé ce truc-là, ça veut dire qu'ils en ont parlé, ça veut dire qu'ils sont prêts à toutes les éventualités de rencontres. C'est dire si cette équipe est prête. On n'arrête pas de dire qu'elle va être championne du monde. Ouais, elle est prête en tout cas.
Et donc, son surnom, c'est Napoléon.
Oui, mais ça, oui, ok.
On demandera. Il faudrait savoir pourquoi maintenant.
Oui, je sais pas.
Bah, et Fabrice, il peut nous dire, peut-être là, il entend, non?
Ah, ouais, je sais pas si Fabrice entend qu'il a quelques explications.
Oui, je vous entends.
Bah, il a passé des vacances à l'île d'Elbe?
Ah, je vais aller chercher, cette anecdote. Je vous cache pas que moi-même, c'était la première fois que j'entendais ça. Ouais.
Ça va faire plaisir.
On dirait peuple corse en tout cas.
Ah oui, non, mais oui, a priori, il n'y a pas d'origine corse, mais pourquoi pas. Bon, je disais donc, on se retrouve dans quelques instants. Évaluation, Stéphane au 32-16. On attend Samuel Umtiti, d'autres réactions. On est là jusqu'à 3h du matin. Dans l'after, il est déjà 1h26, le temps passe vite et la France est en quart de finale de la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Drivois. 1h27 du matin dans la nuit de l'After. On est là jusqu'à 3h avec Daniel Riolo, avec Maxime Chano, toujours aux États-Unis avec Jean-Louis Tour au stade à Philadelphie. Jean-Louis Tour au stade à Philadelphie à 4 juillet. Vous savez que Philadelphie a été la première capitale des États-Unis.
Bien sûr, c'était. Oui. Voilà. La ville où, en gros, de la liberté, de l'indépendance.
Ouais, la déclaration d'indépendance,
et là où
bien sûr.
A été rédigé le texte.
Oui, à 50 mètres de notre hôtel. Ah c'est oui. Les 250 ans. Et voilà.
Magnifique.
Ah, oui. Tu sais, ça n'est pas que la ville de Rocky Balboa, c'est ça qu'il faut dire. Ouais. En gros.
Alors, tu sais que pour l'anecdote, George Washington a eu le privilège de choisir l'emplacement de la capitale qui a pris son nom. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit malin? Il a pris un endroit où le terrain appartenait à sa famille, histoire de faire une petite bascule. Ils sont forts les Américains. Déjà il y a 250 ans ils faisaient du business. Bon, parlons foot. Les gars, moi je qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match, Max, en dehors de cet aspect un peu là, voilà, de la gestion, du physique, de la réponse. Je veux dire, après la Suède, on était assez dithyrambique sur des relations entre joueurs, entre attaquants. Voilà, il y avait, on a analysé le jeu. Est-ce qu'il y a du jeu à analyser ce soir, Max?
Bah, écoute, moi je l'ai dit un peu plus tôt dans mes trois points, Gilbert, moi ce que j'ai aimé de cette équipe de France, et d'ailleurs je pense qu'on va falloir s'y faire maintenant, c'est que quand tu gagnes une Coupe du Monde, tu gagnes en jouant de manière différente. Et bien, tu as joué contre le Sénégal, contre une équipe qui avait plus la, athlétiquement parlant, était beaucoup plus forte que l'équipe de France. La France est arrivée à justement matcher cette équipe du Sénégal, elle a gagné. Ça a été la même chose contre l'Irak, où est-ce que l'Irak les avait attendus avec un bloc bas, elle est arrivée à contrer cette équipe d'Irak, elle a gagné. Moi je me posais des questions par rapport à cette équipe paraguayenne, et notamment par rapport à l'impact mental qu'ils
avaient. Je te coupe, Max, il y a William Saliba qui est avec Fabrice.
Oui, William, c'était une grosse, grosse bataille pour toi, pour Dayo Upamecano, pour toute l'équipe. Raconte-nous un peu ce que ça faisait de se battre contre ces 11 Paraguayens. On a l'impression qu'ils voulaient vous manger.
Non, aujourd'hui, c'était pas facile. On savait, on était préparé. Le coach nous avait préparé. Il nous avait dit contre qui on allait jouer aujourd'hui. Donc, on était préparé. On savait qu'ils étaient un peu malins et qu'ils allaient nous rentrer dedans, faire que quelques petites fautes et essayer de nous sortir notre match. Mais voilà, on est resté concentré, même si on a pris quelques cartons jaunes. Je pense qu'ils auraient mérité aussi quelques cartons jaunes, mais voilà, au moins il n'y a personne qui est sorti du terrain. On a fini à 11 et voilà, la victoire elle était importante, même si c'était pas facile de jouer contre un bloc bas comme ça. Après c'est une bonne équipe, ils ont bien défendu et voilà, on retient la victoire aujourd'hui.
Comment vous avez fait pour pas dégoupiller alors que l'arbitre il sifflait rarement les fautes, il y a eu très peu de cartons, pour rester concentré et pas sortir complètement du match? Ils vous ont provoqué souvent aussi?
Ouais, le coach nous avait prévenu 2-3 jours avant de rester dans notre match, que nous a montré quelques vidéos, que voilà, ils allaient nous rentrer dedans, faire des fautes, nous provoquer, et qu'il fallait qu'on reste dans notre match, parce que si on commençait à perdre l'énergie, à nous embrouiller et sortir de notre match, ça allait pas le faire. Donc voilà, on est resté concentré et voilà, c'était pas facile, et ça fait aussi du bien des fois de gagner les matchs difficilement comme ça, parce que depuis le début de la compétition on est habitué à en mettre 3 et voilà, et aujourd'hui c'est une victoire 1-0, mais voilà, ça a le même mérite.
Voilà pour William Saliba. Max, je te redonne la parole et ensuite Daniel et Jean-Louis.
Oui, bah exactement ce que disait Saliba. Moi, j'ai beaucoup aimé justement. Donc après les 2-3 premières oppositions, parce que je mets la Norvège entre parenthèses tellement ils avaient fait tourner leur équipe. Je sais pas si vraiment on pouvait appeler ça une opposition, mais là, en fait, on savait à quoi s'attendre. C'est-à-dire, on savait que les Paraguayens allaient agresser les Français et surtout allaient hacher le jeu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai beaucoup aimé leur réaction. J'ai beaucoup aimé la manière dont les joueurs ont joué. J'ai aimé évidemment la manière et leur patience, parce que c'est pas facile aussi. Hein. Tu te retrouves contre un bloc bas. Fallait faire aussi attention aux fulgurances. Et je sais que tu l'aimes beaucoup, Ciseaux ou d'Almiron. Voilà, c'est la mentalité que j'ai envie de mettre en avant ce soir, Gilbert. La manière, encore une fois, où les Français ne sont pas tombés dans le panneau. On sait que ça va être un match encore différent contre le Maroc. Et ça aussi, ça prouve l'intelligence de jeu de ces joueurs, l'expérience. Moi, je trouve qu'ils sont complets. Et j'avais peut-être ce questionnement, en tout cas au début de compétition, en me disant, est-ce que les Français sont en mesure de pouvoir se mettre au niveau de ce genre d'équipe contre le Paraguay, contre l'Irak? Eh bien, ils l'ont fait très bien fait. Et quand tu arrives à avoir ça, en plus, dans ta palette de qualité,
dans les matchs où
tu exactement,
tournes
parce que exactement, c'est un peu ça, Daniel. Tu sais, quand t'as un joueur comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, t'as pas forcément envie d'aller te mettre les mains dans le cambouis.
Je pense que t'as assez
Kylian
de,
Mbappé
t'as,
l'a dit un peu différemment. Ouais, mais honnêtement, quand je vois la mentalité de ces joueurs, moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et avec toutes les qualités qu'ils ont, tactique, technique, physique, si en plus de ça, tu leur rajoutes ce qu'ils ont montré ce soir, c'est-à-dire vraiment une mentalité exemplaire, je vois pas qui peut aller inquiéter cette équipe de France.
Donc la patience est ajouté le calme, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de panique alors que le temps passait. Je pense que si les gens qui regardaient dans leur télé ou au stade étaient plus dans la panique et eux dans leur canapé avaient probablement le temps d'envisager un scénario catastrophe en retournant un peu toutes les situations et si, en empilant les et si. Mais j'ai pas l'impression que sur le terrain il y a eu beaucoup de et si. On a construit tranquillement. J'entendrais quelqu'un qui viendrait me dire et si Doué était rentré plus tôt, puisque le fait de provoquer, c'est ça qui a déclenché et débloqué la situation. Ok, mais justement, je pense que d'avoir commencé comme ça et d'avoir gardé la cartouche Doué qui n'est pas rentré tard, hein. Il est rentré très tôt dans le match. Et donc, il a eu le temps, lui aussi, de construire son match jusqu'à provoquer pour aller chercher ce penalty. Tout ça montre, je pense, que l'équipe de France, très mûre dans son approche de tous les types de matchs, a également construit celui-ci. Si jamais, par malchance, tu avais dû aller à la prolongation, bah ok, très bien, et alors t'aurais pu le gagner en prolongation le match. Certes, t'es un peu plus fatigué, mais je pense qu'il y a de la patience, du calme, au-delà de toutes les qualités qu'on connaît quand le match n'est pas un bourbier de ce type-là. Maintenant, le Paraguay a augmenté son curseur bourbier par rapport au match de l'Allemagne, parce que la France est plus forte, donc ils ont ajouté les coups, ils ont ajouté le vice. Ils avaient simplement eu besoin de défendre contre l'Allemagne et de réaliser ce que moi j'avais appelé un braquage. Alors maintenant, quand même, je suis curieux d'entendre tous ceux qui m'en ont voulu de parler de même en France, on comprenait pas que je parle de braquage ou quand une équipe ne fait que ça sur dans un match. Je dis qu'elle est en mode braquage si elle réussit par gagner la rencontre. Quand c'est l'équipe de France, ça. Et c'est là qu'on voit le manque d'objectivité de ceux qui regardent le foot. Si c'est l'équipe de France, on dit que c'est l'équipe de truands, qui fait des fautes, qui fait un sale football, qui fait... Quand c'est la même équipe bat l'Allemagne ou l'Espagne ou un autre gros dont on n'a rien à cirer parce qu'on supporte pas cette équipe, mais on supporte l'équipe de France, mais quelle défense, mais quel caractère, mais quelle équipe, quel cœur, chacun joue avec ses atouts, chacun joue avec ses armes, c'est formidable. Et alors ça, c'est typiquement ce que je ne supporte pas, c'est quand la réaction, le commentaire d'un match n'est guidé que par le petit supporterisme du coin de la rue. Ça m'exaspère. Et donc, si les Paraguayens avaient fait mieux que perdre ce soir, j'aurais exactement parlé de braquage, comme je l'ai fait pour l'Allemagne. Et oui, contre l'Allemagne, c'était un braquage. Visiblement mieux fait, les masques étaient de meilleure qualité que ce soir, puisque là, les Français ont beaucoup plus de qualité que les Allemands, et avec la patience, ont réussi à aller faire la décision. Mais qu'on vienne pas me dire
Daniel,
que cette équipe du Paraguay
fait autre chose. Que chaque équipe joue avec ses qualités, Daniel.
Pardon ?
Tu dois accepter que chaque équipe joue avec ses qualités. Le Paraguay, ils n'avaient pas le choix. C'était le seul moyen.
C'est exactement ce que je suis en train de dire, Max. Ouais. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais quand je le dis et qu'ils battent l'Allemagne, on me dit, mais non, c'est pas un braquage. Ils jouent avec leurs atouts. C'est un très beau jeu défensif. C'est machin, c'est cela. Les petits ont le droit d'exister, machin. Bah oui, j'ai le droit de dire que c'est un braquage. Voilà, c'est tout.
Bon, Daniel, là, tu reviens 4 jours en arrière pour répondre à des gens qui n'étaient pas d'accord avec toi.
Mais pas du tout. Bah si. Je dis que ce soir, parce que ce soir, les gens se plaignent en disant c'est des bandits, c'est des voyous, ils mettent des coups. Bah non, c'est leur football. C'est leur football. Voilà, ils jouent. Et moi, ça m'emmerde pas. Donc, quand je prends la moitié du pays, du Paraguay sur la tronche qui m'insulte en disant ouais, tu dis ça, hein. Oui, bah, oui, mais voilà. Bah, c'est leur façon de faire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je les laisse totalement libres d'avoir le football qu'ils veulent, mais moi je veux avoir le droit de dire que oui, c'est des braqueurs.
Stéphane est là au 32-16. Salut Stéphane.
Ouais, bonjour à tous, enfin bonsoir à tous et merci encore de m'accueillir une nouvelle fois.
On t'écoute.
Ouais, non, bah, juste pour
t'es
vous
soulagé
dire, ouais, on est soulagé, on est quand même content, on a un peu souffert comme en 98, on s'attendait à ça comme il dit Daniel et comme a été préparé les joueurs. Moi, ce que je retiens, c'est une immense force mentale de notre équipe, enfin l'équipe de France. Moi, j'ai vraiment été impressionné par rapport à leur maturité. Et aussi, vous l'avez dit, c'est la maîtrise absolue des émotions face justement à ces Paraguayens qui étaient sur le terrain que pour faire déjouer l'équipe de France, pour les provoquer. C'est leur style de jeu. Moi, comme dit Daniel, on va pas parler de ça, on va pas critiquer ça. Mais vraiment, une grande maîtrise de l'équipe de France. Et ce que j'ai aimé, c'est quand ils étaient provoqués, ils répondaient souvent avec le sourire à l'image de Kylian Mbappé, un peu comme on voit dans...
Voilà. Voilà, c'est très juste ça.
Je pense même qu'ils s'étaient mis d'accord. Mais regarde quand Dembélé, quand le Paraguayen va ruiner le point de penalty, Dembélé le regarde en souriant en mode.
Exactement, ça le fait marrer, genre, mais c'est pas vrai, t'es vraiment
gentil. Je pense qu'en fait, ils en ont fait une espèce de façon. Ils s'étaient sur le pied d'accord en disant on va répondre par le sourire, en gros, pour. Parfois, ça peut énerver encore plus le gars d'en face. Hein.
C'était vraiment, vraiment génial. Et bon, Daniel qui joue au tennis, mon petit joue au tennis, et voilà, c'est des choses qu'on dit souvent, des choses qu'on retrouve aussi au tennis. Ouais. On joue face à des mecs souvent moins forts.
Avec exactement.
Des types de jeu, c'est le mec qui ramène tout.
Exactement.
Daniel, il joue pas souvent contre des mecs moins forts.
Si. Mais t'as parfaitement raison, c'est une belle analogie. Et souvent, si ça t'énerve, et tu pètes un câble, tu dis mais pourquoi, voilà. Mais ouais, mais voilà, c'est le truc que tu dois accepter. Quand tu l'acceptes, tu gagnes. Et quand tu l'acceptes pas, tu tombes dans le piège. Et les Français sont pas tombés là-dedans.
Stéphane, merci beaucoup. Samuel Umtiti nous rejoint à côté de Jean-Louis au stade. Bonsoir Samuel.
Bonsoir à tous.
Bon, comment on est sur le terrain quand on rencontre ce type d'adversaire? Toi dans la tribune, ils t'ont énervé les Paraguayens, ou comme on le dit depuis le début, finalement tu dis bon, et comme l'a dit Mbappé, ils jouent leur jeu après tout, ils ont perdu et voilà, il y a pas de mauvais football.
Non, c'est chiant. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un football qu'on apprécie nous, en tout cas joueurs, en tout cas. Moi, j'ai jamais apprécié ce genre de football, mais tu dois faire avec parce que tu sais que tu as des équipes qui sont capables de jouer de cette manière. Et au final, je me rends compte que l'équipe de France a été bonne et prête à jouer aussi face à des équipes comme ça, parce que on savait que ça allait être dur. On savait qu'on n'allait pas avoir peut-être 50 occasions, que dans le jeu, on n'allait pas jouer comme d'habitude. Mais j'ai trouvé qu'ils ont été sur deux. Ils ont été sur deux, et les changements aussi de Désiré Doué a fait énormément de bien, parce qu'il fallait rentrer dans la surface, il fallait essayer de percuter, et au final Désiré Doué l'a très bien fait, et Kylian a mis ce pénalty. Mais c'est chiant, il faut dire la vérité, de jouer face à des équipes comme ça. Mais ça existe, le football, il y a de tout, il y a des équipes qui jouent, il y en a d'autres qui ne jouent pas, comme l'a fait le Paraguay aujourd'hui.
Je disais tout à l'heure, là, avant qu'on soit coupé par William Saliba, que retenir en termes de jeu d'un match comme celui-ci, Samuel, contre la Suède, on s'amusait à analyser les relations devant, au milieu. Là, c'est un peu compliqué quand même.
Mais c'est très dur de trouver des relations, même de la profondeur de l'espace, c'était très compliqué. Mais au final, on a fait le match qu'il fallait. On a été patient, et on a trouvé, on va dire, le peu d'espace qu'on a pu, on a réussi à rentrer. En tout cas, il nous en a fallu une pour rentrer dans la surface et provoquer ce penalty. Mais il fallait pas s'attendre à un autre match. Pour moi, c'était le match qui allait se passer, qui allait se produire. Et pour moi, on a très 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 bien géré.
Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'être dans une équipe qui devait faire un match comme ça, où t'as fait que défendre, où t'étais dans le rôle inverse, dans le rôle du pourrisseur de match?
Non, je pense pas.
Bah, France-Belgique, c'est un peu ça.
Non, c'est pas comme ça, parce que je vais vous expliquer la différence. Je vais vous expliquer la différence. C'est que France-Belgique, c'est que on savait qu'on allait défendre, mais si vous regardez bien les images, on n'a pas forcément dégagé. Quand on avait le ballon, on essayait quand même de ressortir. Il y a une grande différence.
Oui, et puis y avait moins
là,
de
c'est une équipe du Paraguay. C'est une équipe du Paraguay qui a pas du tout, pour moi, essayé de jouer. Dès qu'il récupérait le ballon, il l'a dégagé. Voilà, c'est dans leur ADN, mais ça arrive. Mais en tout cas, moi, j'ai rarement été dans une équipe comme ça, en tout cas je me vois pas, et pour moi c'est pas vraiment du football. Et tu te rends compte que ils ont quand même des joueurs de qualité. À un certain moment, ils ont mis le pied sur le ballon, ça durait peut-être 2 minutes, mais ils ont réussi à le faire. Donc pour moi
c'est plutôt des mecs qui savent jouer au foot. Bah c'est oui, juste qu'à partir du moment où ils considèrent que l'autre est meilleur et que s'ils ouvrent le jeu normalement ils vont perdre, c'est un calcul. Oui. C'est voilà, on va se mettre à 5-6 derrière, on va faire des lignes compactes et on va pratiquer ce foot, parce que on a également cette notion de football de rue un peu vislard, on sait faire, et donc on va essayer de s'en sortir comme ça. Et je le disais tout à l'heure, contre l'Allemagne, ils ont même pas eu besoin de mettre un petit peu plus les coups et le vis, parce que c'est passé juste en défendant. Mais à partir du moment où tu arrives en huitième de finale et que tu es le Paraguay, tu es déjà dans une Coupe du Monde réussie. Tu es déjà dans quelque chose de très bien. Et à l'inverse, les Bleus, c'est une étape de plus pour être en quart. Bon, on peut continuer à dire, et je pense qu'on n'est pas dans l'erreur et qu'on n'est pas dans l'offense en disant que les Bleus vont arriver en quart sans avoir joué de gros adversaires. Il se trouve que le parcours est celui-là. On pourrait dire la même chose de l'Argentine, qui pour l'Argentine c'est la même chose, même s'ils ont beaucoup galéré.
Le Maroc est un gros adversaire.
Oui, mais là ils sont en quart, c'est maintenant. Oui. Jusque là ils n'en ont pas eu.
Est-ce que tu disais c'est peut-être pas forcément un problème?
Est-ce que c'est important même?
Non, je te dis pas que c'est un problème, c'est un constat.
Oui, non, ok. Ouais.
C'est juste un constat. C'est que la Coupe du Monde, c'est voilà, quand t'es à un certain niveau, on a le sentiment qu'en face, t'as des équipes qui essayent surtout de faire des jouets, de bricoler, de retarder l'échéance du but à prendre,
parce
quoi.
Parce qu'ils ont pas le choix.
Plus que de t'en mettre un.
Max,
je suis d'accord avec toi, Daniel. En fait, le scénario du match entre le Paraguay et l'Allemagne est différent parce que les Paraguayens avaient marqué les premiers.
Oui.
Donc forcément, ils étaient derrière, ils étaient en position de force, fallait que les Allemands sortent pour pouvoir éventuellement égaliser ce qu'ils ont fait. Puis après, on connaît un peu la suite du scénario. Là, pour le match de cet après-midi entre l'équipe de France et le Paraguay, c'était différent parce qu'en fait, le temps jouait en la faveur du Paraguay. Et donc c'est la raison pour laquelle ils sont restés sur leur ligne de conduite à agresser l'équipe de France. Et puis derrière, à partir du moment que l'équipe de France a marqué le but, on savait que ça allait être beaucoup plus facile pour les Français. On peut peut-être se poser la question sur les choix de Didier Deschamps. Est-ce que c'était utile de faire jouer Barcola contre un bloc aussi bas par rapport aux Paraguayens? C'est vrai que quand Désiré Doué est rentré, on a vu la différence sur l'un de ses premiers ballons. D'ailleurs, c'est lui qui crée le penalty. Ça aussi, c'est peut-être un débat qu'on peut avoir.
C'est la seule question. C'est est-ce que tu le fais? Est-ce que puisque tu t'y attendais et qu'on l'avait beaucoup dit dans les débats antérieurs, est-ce que les qualités de Doué auraient pas dû être là dès le coup d'envoi? Mais au final,
comme on l'avait dit la dernière fois, on a parlé de la forme du moment. C'est même voilà. Daniel qui
non,
disait.
On a même fait des débats en expliquant que face à un bloc bas, Barcola c'est mieux. On l'a fait, hein, on l'a fait il y a 48 heures.
On l'a fait, mais on l'a vu que c'était pas forcément le cas.
Oui, mais à partir du moment où tu sais que tu as l'atout, sur le banc et qu'un match c'est 90 minutes et que eux ne te créent aucun danger. Alors si tu l'avais fait rentrer à la 80e et que tu avais continué à buter, là ça aurait été très critiquable. Mais là tu l'as fait rentrer très tôt, il s'est mis en jambes très vite et l'ouverture allait venir rapidement. Donc dans la construction et la lecture du match, ça me semble pas être une erreur.
Jean-Louis, un truc à rajouter là, on t'entend plus depuis tout à l'heure parce que je sais que tu aimes bien
Charlie. Il cherche pour Napoléon.
Non, mais si on me dit théorie, c'est parce qu'il a toujours les mains dans son short.
Pas une théorie valable. Dans son short. C'est-à-dire
Cherki. Bah comme Napoléon avait toujours la main dans
son moi, je croyais que tu parlais à moi.
Je sais pas, c'est une théorie qu'on me donne
Napoloéon avait pas la main dans son froc, il avait la main dans
c'est peut-être,
dans le manteau.
C'est peut-être la taille, non manteau. La taille des deux.
Ah, non peut-être, bah oui, à ce moment-là, c'est pas grand. Il n'y a plus de Valbuena en équipe de France. Bon, bref. Donc, Jean-Louis.
Non, juste, moi, je serais très surpris qu'on. Je pense qu'on est, on a vraiment basculé dans une autre Coupe du Monde qui est beaucoup plus mentale désormais, sur les matchs qu'on va avoir à jouer. Je suis pas sûr qu'on mette 3 buts de moyenne ou plus comme on a fait depuis le début de la compétition sur les 4 premiers matchs. Je pense que maintenant, dans ce nouveau mode de foot, il va falloir qu'on trouve les ressorts pour se sortir des situations. On l'a bien montré aujourd'hui, mais je pense que contre d'autres blocs bas regroupé meilleur que le Paraguay.
Est-ce que tu vas en rencontrer?
Ce sera d'autres galères.
Est-ce que tu vas en rencontrer?
Je pense qu'il y a des moments où le Maroc est capable de le faire.
Ouais, c'est plus non, le Maroc
ne joue plus du
c'est
tout plus comme en 2022. Hein.
Non, mais ils sont capables de le faire quand même sur des actions, peut-être même sans jouer comme 2022.
Mais là, tu n'as plus à rencontrer ce genre de football maintenant.
Ouais, mais je pense pas qu'ils jouent le jeu, tu vois, le Maroc.
Match, pour autant. Dans un match sur 90 minutes, il suffit que le Maroc gagne, par exemple, 2-0 et ils vont forcément essayer de descendre le bloc.
Là, où évidemment, dans ce cas-là, oui. Mais
voilà, mais ça fait partie du jeu, Daniel. Oui, tu peux rencontrer un bloc bas, pas forcément sur 90 minutes. Tu peux le rencontrer sur 20 minutes, tu peux le rencontrer sur 30 minutes, en fonction du scénario du match. Et moi, je me posais la question par rapport, et tu l'as dit, Daniel, les Paraguayens étaient tellement pas maladroits devant, mais en tout cas, ils ont tellement pas posé de problème en français. Est-ce qu'il c'était nécessaire aussi d'avoir un Jules Koundé sur le terrain pendant 90 minutes? Est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire de faire rentrer un Malo Gusto un peu plus tôt, par exemple?
On va parler coaching dans quelques instants, justement. On se quitte quelques secondes, on revient. Coaching de Deschamps, on l'évalue, Deschamps. On évalue aussi tous les joueurs un par un, évidemment, comme de coutume, dans la nuit de l'after qui continue jusqu'à 3h du matin. Et puis, dans quelques minutes, on vous attend, supporters de l'équipe de France, supporters de l'équipe du Maroc, au 32-16, parce qu'on va, là aussi, parler du quart de finale de jeudi soir, 22h, sur RMC France-Maroc. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, intégrale Coupe du Monde.
Gilbert Brisbois.
1h47 du matin dans le studio de l'After. Nous sommes de retour à Paris pour certains d'entre nous, Daniel et moi. On est rentrés, on a retrouvé notre studio parisien. Alors que Maxime Chano brille encore de mille feux à New York et que Jean-Louis Tour et Samuel Umtiti, eux, charbonnent à Philadelphie. Voilà, c'est comme
ça.
Ouais,
c'est le mot.
Ouais. Voilà. Et la France.
Sam, il a eu un petit coup de chaud, je crois, ce soir.
Ah oui?
Non, mais vraiment, la chaleur qu'il a. Mais vraiment, il faut en parler. Une chaleur. Waouh, c'est
canicule, quoi.
Mais c'est plus que la canicule, j'ai jamais vu ça. Une chaleur, vraiment, même pour les joueurs, j'avais de la peine pour eux. Mais bon, ils ont réussi à faire le job.
Je t'ai vu en tribune vraiment. Là sur M6, t'avais l'air assez frais là, t'as même pas tombé la veste.
Mais quoi, mais bien sûr, parce que j'ai des obligations. Crois-moi que j'aurais tout enlevé, la veste, le t-shirt, tout. Mais bon, c'était pas possible.
Ah, ça peut être disruptif, un mec qui commence torse nu. On l'a encore jamais vu. Mais
pour gagner des auditeurs ou des auditrices ou des téléspectateurs. Et,
ouais. Ah oui, en tout cas, c'est pas moi qui vais le faire. Hein. Ouais. Tournez-vous plutôt sur ça, qui peut le faire.
Avec Jean-Louis, on peut perdre des auditeurs si.
Ah ouais, ils peuvent appeler les pompiers.
On va mettre Max Chano, il a quelques tatouages à montrer. Les gars, évaluation. J'aimerais d'abord qu'on parle de Deschamps et du coaching, en effet, parce que finalement, il n'y a eu que 2 changements dans ce match. Donc, Doué qui est rentré, Cherki qui est rentré. Est-ce que les circonstances de match, voilà, le côté très physique et tout, expliquent ça ou est-ce que vous ne comprenez pas? Enfin, quel est votre avis?
Moi, il n'y a rien que je ne comprends pas et il n'y a rien que j'ai envie de reprocher à Deschamps sur ses choix. L'équipe de départ, on était tous d'accord. Le fait que désormais Barcola et Doué se partagent le match, c'est acquis. Celui qui rentre fait la décision. On a vu dans cette Coupe du Monde que ça avait également marché dans le sens inverse. Je vois pas. Je veux bien théoriser sur le fait que un autre joueur aurait pu rentrer ou comme disait Max, Gusto à la place de Koundé et tout. Mais l'équipe de départ, elle est connue maintenant. Donc oui, tu pouvais faire un changement en mettant un latéral qui monte un peu plus. Mais je sais pas si ça aurait débloqué plus la situation. La situation, elle s'est débloquée derrière. Hier, le match est devenu beaucoup plus simple pour les Bleus. Moi, j'ai rien à reprocher au coach et aux décisions qu'il a prises dans ce match.
Samuel ?
Moi non plus, j'ai rien à reprocher au coach Deschamps. Pour moi, c'était l'équipe qu'on savait, hein, qui allait débuter. Donc, même par rapport à Jules Koundé, ça m'étonne pas. Et même après, pour moi, il fallait garder sa défense. Ça sert pas forcément à grand chose de changer, et surtout qu'un joueur. Un joueur sur les côtés, je ne sais pas du tout s'il aurait apporté, on va dire.
T'as Dembélé maintenant, de toute façon.
Ouais, c'est pour ça. Je pense que ça ne servait pas à grand chose de changer. Je pense que le choix, par contre, de faire rentrer Désiré Doué, c'est très bien. Et comme l'a dit Daniel, les deux, j'ai l'impression qu'ils se partagent un peu. Ils se partagent un peu le fait d'être décisif. Dès qu'il y en a un qui sort, celui qui rentre, il est décisif et ça marche plutôt bien. Donc moi, c'est
très bon
choix
de la part de Deschamps. On a les 11, on a même les 13-14 maintenant, parce que c'est toujours Cherki qui fait une petite entrée. D'ailleurs, il faut quand même le dire, je suis désolé, mais on n'a encore pas vu une seule bonne entrée de Cherki. Il rentre quasiment à chaque match, mais quand il rentre, je ne lui...
Là, ce soir, bon...
Là, tu voulais qu'il fasse quoi?
Ouais, à part garder un peu le ballon devant...
Moi, je te dis que quand il rentre,
Moi, je suis plutôt compréhensif.
Tu parles des matchs précédents ou ce match-là? Ouais. Ce match-là, honnêtement...
Tous les matchs où il est rentré, je ne lui ai pas vu faire quelque chose de positif,
Daniel,
dans le match.
Mais là ce que je pense
qu'il a envie de se montrer,
une bonne passe, il garde un peu trop le ballon, il a une attitude un petit peu désinvolte, un petit peu genre je suis le fantaisiste de l'histoire.
Oui, mais
moi j'adore le fait qu'il soit beaucoup de bien la plupart du temps. Depuis un an maintenant, j'ai aimé toute sa transformation de joueur plus intelligent, plus mature. Là, à chaque fois qu'il rentre dans cette Coupe du Monde,
après
ça aide d'impact quoi, avec une attitude un peu bizarre.
Par rapport à Cherki, ça peut être naturel. C'est un joueur qui était très proche d'être dans le 11 titulaire avant la compétition, rappelez-vous. Et c'est vrai que là, je pense qu'à chaque fois qu'il a l'opportunité de pouvoir s'exprimer, malheureusement, il en fait trop. Je suis d'accord avec toi, Daniel. Sur ce match-là, au moment où est-ce qu'il rentre, je vois pas ce qu'il peut faire de plus ou de moins bien. Je pense que par rapport au choix de Didier Deschamps, en tout cas, en règle générale, moi, je parlais de Jules Koundé. Alors oui, ça aurait peut-être été bizarre de le sortir une fois qu'il y avait 1-0, mais juste avant Sam, parce que Sam l'a dit un peu plus tôt, moi, je pense que en fait, je trouvais presque Koundé inexistant. Il servait absolument à rien. On savait qu'en transition offensive, Saliba et Upamecano, c'était solide. Donc, c'est vrai que Malo Gusto, il aurait peut-être eu l'opportunité de pouvoir s'intercaler entre les lignes, créer des décalages et laisser un peu plus d'espace à Ousmane Dembélé.
Il l'a fait, hein. Il l'a fait, Jules Koundé, en première mi-temps.
Il le fait toujours. Après, c'est de savoir s'il le fait bien, Sam. Et il le fait pas toujours bien. Il a d'autres qualités, attention. Hein.
Je suis d'accord, mais je trouve que les courses qu'il devait faire offensives, il les a faites. Après, défensivement, il a été présent, il a été bon. Pour moi, ça sert plus à rien de penser, oui, il faut changer maintenant pour essayer de faire goûter ou de faire boire à Gusto. Moi, je pense que exactement.
Si,
moi, je
ça
pense
l'est, parce que là, on parle.
À l'heure actuelle, ça va servir à quoi ça?
Là, je te parle changement, Sam. Uniquement, c'est lorsqu'il y avait 0-0, évidemment, quand la France a débloqué le compteur avec le premier but de Mbappé, c'était réglé. On n'a plus besoin de Malo Gusto.
Mais quoi, mais tu vas faire
changer
le match.
Non, ce que j'explique, c'est que ça donne une opportunité supplémentaire quand t'as un joueur qui est capable de pouvoir se projeter vers l'avant, ce qui n'est pas forcément le cas avec Jules Koundé. Alors, je te dis pas attention. Là, c'est essayer de créer des débats, mais je pense que le seul petit point d'interrogation que j'ai aujourd'hui sur ce 11 titulaire, ça serait Jules Koundé, je l'ai dit depuis un certain temps. Et quand je vois des blocs bas comme le Paraguay, je ne suis pas sûr que Jules Koundé, avec toutes les qualités
oui,
qu'il a, soit vraiment
il n'y en aura plus des blocs bas, il vaut mieux que ce soit lui.
Impactant pour l'équipe de France. Voilà, oui, peut-être, oui.
Après oui, moi, Samuel. Je pense que là, pour faire rentrer Gusto, pour moi, ça ne servait à rien et on l'a vu. Pour moi, c'était vraiment les joueurs offensifs. Le 1 contre 1, individuellement, il devait être bon. Et là, c'est ce qui s'est passé quand Désiré Doué a réussi à rentrer dans la surface, éliminer un, deux joueurs. Oui, mais au final, tu te rends compte que même à gauche, alors que Lucas Digne a fait un bon match, il a apporté, que ce soit offensivement ou défensivement, il a été bon. Mais ce n'est pas eux qui allaient changer le match. C'était les joueurs offensifs sur du 1 contre 1. Oui, individuellement, il fallait qu'il soit exceptionnel ou très bon, comme l'a été en tout cas sur la rentrée Désiré Doué.
Il y a une stat qui interpelle quand même. La France a tiré 15 fois, mais il y a très peu de tirs cadrés. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il
y a eu beaucoup de tentatives de loin
notre quatuor habituel a été moins bon que d'habitude, globalement, quand même?
Non, je pense que l'idée était également de dire, on a un bloc bas, la solution des frappes de loin, puisque c'est souvent ce qui se dit quand tu as des blocs comme ça, bas et très groupés, utiliser la frappe de loin. L'idée était donc d'éventuellement tenter ça. C'était plus qu'une éventualité, parce que je trouve qu'il y en a eu beaucoup. Rabiot a dû en mettre au moins 3, Mbappé 2, il y a eu beaucoup de tentatives.
Manu Koné a failli marquer sur le seul arrêt énorme du gardien.
La seule réellement dangereuse, c'est effectivement celle de Manu Koné. Il y a eu beaucoup de tentatives de loin, mais des frappes, à mon avis, demain, il faudra faire un petit atelier frappe, parce que Rabiot a arrosé la tribune 2-3 fois, Mbappé, il y en a eu, il est parti au 4e étage. Donc un petit atelier frappe demain, serait, à mon avis, c'est pas du luxe.
Mais pourtant, ils ont une qualité.
Je suis d'accord,
Rabiot, il a un très bon pied.
Vas-y Samuel, ouais. Max ensuite.
Ah mais là il a arrosé. Hein.
Ouais mais ça arrive de manquer de précision, mais c'est vrai que c'était pour moi c'était le choix, c'est ce qu'ils devaient faire, essayer de frapper de loin. Ils ont essayé à plusieurs reprises.
Oui
ça
la solution
forcément...
elle est là, il faut qu'elle existe cette solution, mais il faut être un peu meilleur quand même dans cette solution. Mais
je suis d'accord avec toi Daniel, si tu fais la comparaison des frappes d'Adrien Rabiot hein, et on connaît toute sa qualité et sa justesse technique, mais depuis le début de la compétition je pense que dans les stats si les tirs non cadrés sont aussi importants, en tout cas ce soir, c'est aussi parce que Rabiot s'est essayé plusieurs fois. Après voilà, comme vous l'avez très justement dit, quand tu joues contre des blocs bas et que tu n'arrives pas à trouver la solution dans des petits espaces ou sur des centres, et ben la frappe de loin c'est la solution. Ouais, c'est dommage parce que c'est la frappe de Manu Koné, fantastique hein, pour le coup hein.
Et en plus c'est, honnêtement la frappe de Manu Koné, quand on regarde bien l'image, il la loupe parce qu'il tape l'herbe,
c'est vrai,
d'abord, et il la loupe et il arrive au final à la prendre d'une manière qui rend le ballon assez tendu, et donc c'était.
C'est vrai qu'elle n'est pas nette, sa frappe.
C'est pas le meilleur geste, en tout cas. Ouais.
Jean-Louis, d'ailleurs, quelles sont les nouvelles de Tchouaméni? Parce que, évidemment, maintenant, on va penser au match de jeudi. Et là, il était blessé.
Écoute, Tchouaméni, donc, les premiers échos du staff, c'est une absence de 3-4 jours. Donc, pour cette douleur aux adducteurs. Donc, on nous a dit, pour le quart de finale, ça peut être jouable. Voilà. Donc, c'était la porte qui était laissée ouverte. Il faut voir l'évolution de la blessure dans les 48 heures qui viennent. Ouais, c'est ça. Donc, à mon avis, il aura un travail aménagé, mais c'est sûr que l'entraînement collectif, à mon avis, c'est pas pour tout de suite pour lui. Après, c'est pas non plus un poste, je trouve, où il faut forcer les choses.
Bah,
Koné fait un
dire.
Très bon match.
Est-ce que voilà. C'est un problème si c'est Koné? Bah, moi, je vois pas de problème, en fait. Si c'est Koné contre le Maroc.
Très bon match. D'accord.
Bah, oui.
Je suis d'accord, il n'y a pas d'écart, en fait, entre les trois milieux, je trouve. Donc, il n'y a pas de souci. Hein.
Exactement. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord avec ça.
Tchouaméni, un côté plus défensif, qui, sur un gros match, me convient un peu plus quand même.
Sam, tu dis quoi?
Il y a ça, et c'est le relais de Deschamps aussi au milieu de terrain quand même pour certaines consignes.
Si tu me donnes le choix, je préfère que ce soit là.
Moi, je pense que Manu Koné a très bien remplacé Aurélien Tchouaméni et il sera encore capable de le faire. On a la chance d'avoir là ce trio-là. S'il manque un, celui qui rentre est aussi performant que l'autre. Donc, j'ai pas de soucis.
Tu lui vois pas plus de qualité défensive, Tchouaméni?
Peut-être plus de qualité défensive, mais moi, j'ai déjà vu des matchs de Manu Koné où il récupère énormément de ballons. Il arrive à se projeter aussi, comme aujourd'hui, mais c'est vrai que quand on parle d'Aurélien Tchouaméni, oui, c'est vrai que c'est, défensivement, il a un gros volume de jeu, mais Manu Koné est capable
C'est fort.
De prendre sa place.
Il est là. Manu Koné avec Fabrice Hawkins.
Ça a été une véritable bataille. Comment on fait pour gérer ce genre de match où aussi on va prendre des coups, ça va être compliqué? Comment on fait?
Franchement, le coach nous a préparé à ça. Dès le début, dès le début, enfin dès après le match contre le dernier match, il s'est déjà préparé avec ça. Il nous a dit qu'il allait avoir des coups, il nous a dit que c'est des joueurs un peu qui aiment tomber, qui voilà, donc il fallait s'adapter. Et aussi il faisait chaud, il y avait la chaleur, mais c'était pour les deux équipes. Mais aujourd'hui je suis content de l'équipe parce qu'on a bien travaillé ensemble. C'était pas facile et on a été efficace, on a gagné 1-0. Et je pense que c'est le plus important pour tenir la victoire et avancer match après match.
Manu, je ne veux pas te tendre un piège, mais tu as sorti encore un très gros match. Tu as remplacé Aurélien au pied levé. Tu enchaînes les très belles performances après l'Irak et la Norvège. Forcément, ça donne faim.
Ça donne faim. Bien sûr que ça donne faim. Mais le plus important, c'est pour moi, c'est, je ne sais pas comment dire, pour moi, c'est quand il y a de la concurrence saine, bien sûr. Ça nous aide aussi à être performant pour l'équipe. Chacun veut montrer le meilleur de soi-même. Donc, objectivement, l'équipe devient encore meilleure parce que, bien sûr, qu'il y a de la concurrence, mais on veut gagner aussi. Donc, franchement, ça fait plaisir. Mais même si tout le monde a envie de jouer, mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc, voilà, au coach de faire ses choix. Mais moi, je vais toujours me tenir prêt, donner le meilleur de moi-même.
Le groupe s'est renforcé aujourd'hui ?
C'est-à-dire, c'est renforcé.
Vous avez gagné dans la difficulté. On a senti vraiment
que
c'était dur.
C'est un autre visage qu'on a montré aussi aux gens et pour tout le monde, pour nous-mêmes, parce que c'était une victoire assez compliquée et on s'est montré à nous-mêmes que même dans ces matchs-là, on peut être solidaires, on peut travailler ensemble et continuer dans ce sens-là. Et franchement, ça fait plaisir. Vous avez vu, à la fin, on a profité avec nos supporters et là, on va bien se reposer pour attaquer contre le Maroc.
Bravo.
Merci, c'est gentil.
C'est marrant, oui, c'est Manu Koné, quand tu l'entends, t'as l'impression que c'est un message, un audio que tu passes en accéléré.
c'est une donnée importante que confirmeront Max et Sam, mais gagner les matchs de merde, ça plaît aux joueurs, ça leur donne de la confiance. Les matchs difficiles comme ça, où t'as galéré, hein, ça peut faire parfois autant kiffer que mettre un 3-0 tout propre.
D'accord avec ça, les gars.
Ça forge un groupe, c'est clair. Ouais, ça forge un groupe, c'est clair. Et puis quand tu vois un petit peu les attitudes des Paraguayens, moi j'ai beaucoup aimé, hein, je l'ai dit encore une fois, mais la manière dont les copains ont défendu Kylian Mbappé, ça crée un groupe. Et ben je pense que ça va peut-être me le confirmer. C'est sûrement déjà arrivé en équipe de France. Et c'est ce qui manquait justement peut-être à ces Français, hein, je l'ai dit un peu plus tôt, hein, techniquement ils sont au-dessus, tactiquement ils sont au-dessus, physiquement ils sont au-dessus. Il manquait peut-être cet aspect un petit peu salopard entre guillemets, et là ils nous l'ont montré ce soir qu'ils sont en mesure en tout cas d'ajouter cette caractéristique à leur palette. Là je vois pas qui peut les arrêter, messieurs, hein, clairement.
Jean-Louis, on te laisse avant que tu te fasses expulser.
Ciao, les gars.
Du stade. Tu peux repartir avec la bande originale de Rocky.
Bien sûr.
On reste avec Sam et Max. On se retrouve dans quelques instants. On aura Laurent et Vincent au 32-16 pour démarrer l'évaluation. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot. Intégrale Coupe du Monde.